Vous écoutez, on lit pour vous.
Quels sont les impacts du smog sur la santé? Un texte de Léo Mercier-Ross paru le 3 août 2025 dans Le Devoir. Des avertissements de mauvaise qualité de l'air ont été émis pour le Québec en raison du smog provenant des feux de forêt qui font toujours rage dans l'Ouest canadien. Si ces épisodes où le ciel devient orangé ou pris par de la fumée semblent faire de plus en plus partie du paysage estival, qu'en est-il de leurs effets sur la santé? Deux experts décortiquent la question. Les feux de forêt affectent la santé en émettant de petites particules microscopiques qui pénètrent profondément dans les poumons et peuvent provoquer de nombreux problèmes, explique d'emblée Jill Baumgartner, directrice du Centre sur le changement climatique et la santé McGill. Être en contact avec ce smog peut mener à des symptômes comme des maux de tête ou des larmes aux yeux, mais aussi des symptômes plus graves comme des maladies cardiaques et pulmonaires graves et des décès prématurés, poursuit celle qui est également professeure au département d'épidémiologie de biostatistique et de santé au travail de l'Université McGill. Ce n'est toutefois pas tout le monde qui réagit de la même manière à la fumée provenant des feux de forêt. Plus particulièrement, les personnes qui ont des problèmes cardiaques et pulmonaires existants, comme l'asthme, sont généralement plus sensibles à la mauvaise qualité de l'air, soutient Scott Wichenthal, également professeur à l'Université McGill, au même département que Mme Baumgartner. La même chose est vraie pour les personnes âgées ou les enfants plus jeunes qui sont encore en développement et qui peuvent ne pas avoir le type de défense en place pour se protéger contre certaines de ces expositions plus élevées, précise M. Wichenthal. Les personnes qui ne présentent pas ces problèmes existants peuvent néanmoins subir certains impacts, mais elles courent un risque bien moindre, ajoute Jill Baumgartner, qui note que, contrairement à une croyance populaire, le système cardiovasculaire est autant à risque que le système respiratoire face au smog. Comment se protéger? Alors, que faire lors des journées où la qualité de l'air pose un risque pour la santé? Les deux collègues sont catégoriques. Il faut écouter son corps. La fumée affecte chacun différemment, rappelle Mme Baumgartner. Si vous commencez à ressentir des symptômes, même les plus légers, comme une toux, un mal de gorge ou des symptômes plus graves, comme des difficultés respiratoires ou des douleurs thoraciques, il est important d'agir immédiatement. Cet inconfort est en fait un signal de danger. En cas de symptômes, ou si vous êtes une personne à risque, il est ainsi recommandé de rester à l'intérieur et d'éviter de sortir le plus possible. Une affirmation qui mérite une précision selon les deux professeurs. Il faut fermer les fenêtres et s'assurer d'avoir de l'air filtré pour que les particules néfastes soient enlevées, souligne Scott Wichenthal. Un conseil soutenu par Mme Baumgartner. L'idée que le simple fait de rester à l'intérieur réduit l'exposition est fausse. Les portes et fenêtres s'ouvrent et se ferment, et plusieurs maisons sont conçues pour avoir un taux de renouvellement d'air élevé. Il est donc essentiel de s'assurer que l'air de cet espace est propre et filtré. En l'absence d'air filtré chez soi, la professeure recommande d'aller dans des endroits publics où l'air est généralement filtré, comme une bibliothèque, un centre commercial ou un cinéma. Que faire si l'on travaille ou doit être à l'extérieur pour de plus longues périodes? Porter un masque peut offrir une protection, explique M. Wichenthal. Ce n'est toutefois pas n'importe quel masque en tissu qui est approprié, mais bien ceux qui peuvent filtrer les petites particules dans l'air comme les N95 qui sont devenues connues avec la pandémie de COVID-19. Même si l'on n'est pas une personne considérée comme à risque, il est aussi recommandé d'éviter l'effort physique en extérieur. Respirer fortement pendant l'exercice peut aggraver les effets sur la santé de l'exposition à la fumée. Une mauvaise qualité de l'air, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez endurer. Ce n'est pas comme aller courir quand il fait froid dehors, explique Gilles Baumgartner. Des effets à long terme. Quand on leur demande si la santé peut être affectée par une exposition à long terme, les deux experts en santé mentionnent que plusieurs recherches sur le sujet sont en cours. Plusieurs de ces études, se déroulant sur des décennies, ont démontré que chez les personnes vivant dans des zones où l'air est souvent pollué, une exposition prolongée à la pollution atmosphérique augmente le risque de mortalité, indique Scott Venkenthal. Des études menées au Canada ont également montré que les personnes vivant près des feux de forêt présentent un risque accru de certains cancers, poursuit-il en précisant qu'il s'agit d'expositions qui s'étendent sur plusieurs années, ce qui n'est pour le moment pas le cas au Québec. Je ne dis donc pas qu'une seule journée de smog va augmenter le risque de cancer, mais si les feux de forêt deviennent plus permanents et que notre exposition augmente à long terme, on peut s'attendre à une augmentation de ces maladies chroniques, précise le professeur. Un scénario qui commence déjà à prendre forme, observe Jill Baumgartner. On pensait autrefois que les feux de forêt, ça n'arrivait pas très souvent. Mais, comme on le constate cet été, ces expositions à leur fumée liées au changement climatique deviennent beaucoup plus fréquentes et plus longues. C'était « Quels sont les impacts du smog sur la santé ?» un texte de Léo Mercieros, paru le 3 août 2025 dans Le Devoir.
Reboiser après les incendies, des drones à la rescousse, un texte de François-Robert Durand de l'Agence France-Presse, paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir. À perte de vue, des forêts calcinées, des troncs brûlés au sol. Au-dessus, dans le ciel, un drone imposant s'active, mitraillant le terrain sans discontinuer de capsules contenant des semences pour accélérer la reforestation. Dans cette zone du nord du Québec ravagée par les méga-feux de l'été 2023, un projet pilote utilise des drones pour la deuxième année consécutive afin de reboiser certaines parties du territoire avec des épinettes noires et des pins gris. Plutôt que de larguer simplement des semences du ciel, l'entreprise Flash Forest, qui pilote l'initiative, se sert de graines insérées dans des capsules contenant de l'eau, des nutriments et des champignons pour maximiser les chances de survie. Il existe un créneau approprié pour la reforestation par drone que nous avons passé les 5 dernières années à l'identifier précisément, explique Cameron Jones, cofondateur de l'entreprise. Il faut par exemple replanter rapidement après les feux, car les zones brûlées, il y a plus de 3 ans, ont tendance à avoir trop de végétation concurrente, herbes, broussailles, pour permettre l'établissement des graines. La végétation bloque la lumière et l'humidité, poursuit-il. La société intervient donc 1 à 2 années après un incendie, après avoir identifié et exclu les zones avec une régénération naturelle. Donc, dans les zones où la forêt ne parvient plus à se régénérer, car les incendies sont trop violents et récurrents. En 2023, le Canada a vécu une année record avec des incendies qui ont touché toutes les provinces du pays, soit au final près de 18 millions d'hectares partis en fumée. Le Québec, et notamment cette zone du nord de la province francophone, a été particulièrement touchée. Nous utilisons l'IA pour cartographier les sites à l'avance, explique Owen Locus, ingénieur pour Flash Forest, les yeux rivés sur les écrans de contrôle. Nous les choisissons en fonction des variables climatiques, des caractéristiques topographiques, afin de nous assurer que nous plaçons les semences au bon endroit. L'entreprise a des projets également dans une autre province canadienne, l'Alberta, et au Colorado, aux États-Unis, cette année. Les deux drones en action au Québec peuvent chacun envoyer au sol 50 000 capsules par jour. Quand tu plantes, tu ne vois pas les impacts, mais quand tu reviens durant l'automne et que tu les vois grandir, tu sais que tu fais quelque chose de positif, glisse Owen Locus. En 2023, comme cette année, où plus de 4,2 millions d'hectares ont déjà brûlé dans le pays, la propagation des feux de forêt est favorisée par les sécheresses liées, selon les experts, au réchauffement climatique. C'est triste d'avoir perdu autant de forêts, regrette Angel Mianskoum, une responsable des CRI, la communauté autochtone de la zone associée au projet. Elle se réjouit toutefois de voir qu'il existe aujourd'hui des façons novatrices de faire les choses. Les communautés autochtones sont les plus touchées au Canada par les feux, car elles vivent souvent dans des zones reculées au cœur de la forêt boréale. Déperdition. De plus en plus, on est obligé de reboiser au Canada, car si les arbres des forêts boréales sont adaptés au feu, aujourd'hui la situation se complique, explique Maxence Martin, professeur en écologie forestière à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il rappelle qu'en 2023, par exemple, ce sont en majorité des forêts très jeunes qui ont brûlé. Si la forêt est trop jeune, alors elle va mettre très longtemps à redémarrer. La replantation est alors la seule option. Et si l'utilisation des drones peut être vue comme une option pour atteindre certaines zones et être plus rapide, cela pose aussi des questions. En effet, cette technique exige une grande quantité de graines, car la déperdition est plus grande que lors d'une plantation à la main. Cela va donc poser un problème de semences, car elles sont compliquées à récolter, et le Canada en manque, souligne Maxence Martin. C'était « Reboiser après les incendies, des drones à la rescousse », un texte de François-Robert Durand de l'agence France Presse, paru le 3 juillet 2025 dans Le Devoir.
L'hôtel était anglais, tout le reste était français. Un texte de François Charbonneau, paru le 6 août 2025 dans la presse. Il y a 80 ans, le 6 août 1945, les journaux québécois annonçaient qu'une première bombe atomique avait éclaté au-dessus de la ville japonaise d'Hiroshima. Mais une autre histoire, publiée ce jour-là, passionnera bientôt le Québec tout entier. Un médecin noir new-yorkais, George D. Cannon, et sa femme, Liliane M. Cannon, poursuivaient en justice le célèbre Château Frontenac pour discrimination raciale. Les Cannon avaient décidé cet été-là de passer leurs vacances à Québec. Dès leur arrivée au château où ils séjourneront 2 semaines, le 29 juillet 1945, ils soupent dans la salle à manger du célèbre hôtel où Churchill et Roosevelt s'étaient rencontrés 2 fois plus tôt qu'une, en 1943 puis en 1944. Les Cannon, qui occupent la chambre 4119, soupent à nouveau dans la salle à manger les 30 et 31 juillet, dans le plus grand bonheur. Or, le soir du 1er août 1945, quelque chose cloche. Le maître d'hôtel fait patienter les Cannon, qui sont pourtant les premiers dans la file depuis un moment. C'est George J. Jessup, directeur adjoint de l'hôtel, qui finira par expliquer au couple que la présence de Noirs importune des clients américains. Ils ne pourront plus souper dans la salle à manger, mais dans leur chambre seulement. Si George J. Jessup pensait avoir réglé le problème, il ne savait pas à qui il avait affaire. L'incident du château fera les nouvelles jusqu'en Australie. Une ténacité hors norme. C'est que George D. Cannon est un être d'exception. Tous les témoignages concordent, Cannon est non seulement un bon vivant, c'est aussi un être habité d'une force et d'une ténacité hors norme. Il a mené des études de médecine à l'Université de Chicago, alors qu'il n'avait même pas le droit de loger sur le campus à cause de la discrimination raciale. Pendant ses études, la tuberculose l'alite pendant 2 ans et lui enlève un poumon. S'il subit d'innombrables actes de racisme pendant son parcours, il sera pourtant le premier Afro-Américain embauché dans 3 hôpitaux new-yorkais différents. En 1945, il est depuis longtemps un militant pour les droits civiques. Il n'allait pas laisser passer un tel affront, même subi dans un pays étranger. Cannon retient les services d'un jeune avocat québécois, Édouard Laliberté, qui lui suggère d'adopter une double stratégie. D'abord, par voie d'injonction interlocutoire, obtenue du juge Oscar Boulanger de la Cour supérieure, mettre en demeure le château d'offrir au couple l'ensemble des services auxquels il a droit en vertu de son statut de client. Ensuite, déposer simultanément une poursuite en justice pour compenser l'humiliation subie. La stratégie va fonctionner à merveille. Le gérant du château se fait servir l'injonction interlocutoire qui l'oblige à servir le couple le 4 août 1945 et les journaux québécois s'intéressent à l'affaire Cannon de manière soutenue à partir du 6 août 1945. Dans son autobiographie, le médecin ne tarira pas d'éloges envers la presse québécoise qui publie abondamment sur l'affaire. Le couple est tout aussi touché de l'appui qu'il reçoit de la population française de la ville de Québec, outré de l'injustice subie par le couple. Le château recevra de nombreux télégrammes de Québécois indignés. Plusieurs ont l'idée d'inviter le couple à souper à la maison, et ils accepteront au moins l'une de ces invitations, celle d'un médecin dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Ils seront reçus en invités d'honneur à l'Université Laval et sans doute à l'Hôtel-Dieu. Des chauffeurs de taxi, comme des passants, leur feront découvrir les atours de la ville. Des membres du personnel de l'hôtel les encourageront à mener leur combat jusqu'au bout. Dans une lettre de remerciement envoyée de New York et publiée dans plusieurs journaux québécois, le 10 septembre 1945, le docteur Cannon écrira que « Vraiment, une ville et une province font preuve de grandeur pour avoir tant de citoyens empressés à montrer leurs sentiments sur un tel sujet. » Des archives inaccessibles. La poursuite se réglera à l'amiable en 1946. Si nous connaissons bien les arguments présentés par Édouard Laliberté dans ce dossier, nous ne savons toujours pas précisément quels arguments favorables à la discrimination le château entendait présenter pour se défendre. Cet argumentaire existe pourtant, puisque pas moins de 4 dossiers comportant 657 pages, préparés par les avocats du château dans cette affaire, sont conservés par Bibliothèque et Archives Canada, BAC, à Renfrew, en Ontario. Cette institution, qui prétend promouvoir les meilleurs principes EDI, choisit incompréhensiblement de ne pas donner accès à 87% des pages qu'il contient pour protéger le privilège avocat-client d'une entreprise, la Château-Frontenac Company, qui n'existe plus 80 ans après les faits. Ce refus est d'autant plus inexplicable que l'actuel château Frontenac a officiellement autorisé BAC à ouvrir ses archives au complet en 2022. Notons que les hôtels Fairmont ont pour leur part présenté des excuses officielles au couple lors du lancement de mon livre « L'affaire Cannon, Boréal 2025 » au château Frontenac, le 5 avril 2025. George Dawes Cannon conservera longtemps le souvenir de cet événement. Il insistera, dans son autobiographie inédite, sur le contraste entre le traitement qu'il reçoit de la direction de l'hôtel et l'appui enthousiaste qu'il reçoit de la population de Québec. Il conclura ainsi que l'hôtel était anglais, tout le reste était français. C'était « L'hôtel était anglais, tout le reste était français », un texte de François Charbonneau, paru le 6 août 2025 dans la presse.
La question qui tue au Bureau d'information touristique. Un texte de Marie Tison, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse. François Morin, conseiller d'expérience au Bureau d'accueil de Tourisme Montréal sur la place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal, doit souvent répondre aux mêmes questions. Mais parfois, on lui demande des renseignements inhabituels. Comme cette étudiante française, nouvellement installée à Montréal, qui attend la visite de son papa pêcheur. Où est-ce qu'on peut pêcher à Montréal? Le conseiller réfléchit quelques secondes et déplie une carte de Montréal pour montrer quelques sites. Le parc de Dieppe, le parc de la Visitation, le parc des Rapides. Il ne veut toutefois pas s'avancer sur le processus d'achat de permis de pêche et dirige la jeune femme vers la section sur la pêche du site Internet de Bonjour Québec. Il lui remet aussi la brochure de la Fédération des pourvoiries du Québec pour plus de suggestions. « Ce genre de questions, ça nous stimule », lance François Morin après le départ de l'étudiante. « Les questions peuvent être très nichées », poursuit-il. « Il faut être prêt à chercher de petits trucs dans nos tiroirs. » Le matin même, un visiteur lui a demandé où se trouvait un orgue en particulier. François Morin l'a dirigé vers la basilique Notre-Dame, qui possède le plus grand orgue casavant au monde. Plusieurs visiteurs sont passionnés de généalogie et cherchent, par exemple, à retrouver la tombe d'un ancêtre. Ce n'est pas facile. Il y a eu une série de cimetières à Montréal, mais les plus vieux sont un peu oubliés. On n'y retrouve plus de pierres tombales. Ainsi, le grand cimetière Saint-Antoine, où reposent 35 000 anciens Montréalais, n'est marqué que par quelques croix gravées sur les allées de la Place du Canada et du Square Dorchester. Un conseiller doit bien connaître l'histoire de Montréal. La plupart des questions des touristes sont toutefois plus prosaïques, à commencer par le bon vieux « Où sont les toilettes? » Une affichette sur le mur indique qu'il faut se rendre au marché Bon Secours à 4 minutes de marche. Il y a également un code QR qui permet d'avoir accès à une carte des toilettes publiques du coin. Avant l'ouverture du bureau, le matin, les conseillers se rencontrent pour discuter de ce qui pourrait dominer la journée. La dernière fin de semaine de tel festival, l'horaire parfois compliqué des transports en commun, en période de conflit de travail, etc. Lorsque les visiteurs se présentent en début de matinée, ils cherchent surtout à organiser leur journée, raconte M. Morin. Ils veulent donc avoir des suggestions de visite, de l'information sur les tours guidés. Je leur demande si c'est leur première fois à Montréal, dit-il, s'ils ont des enfants, quels sont leurs intérêts. On ne veut pas recommander des choses qui ne les intéressent pas, mais on va aussi saupoudrer quelques idées autres. C'est ainsi que plusieurs touristes affirment ne pas aimer les musées, raconte-t-il. Mais avec une quarantaine de musées à Montréal, il y a moyen de trouver quelque chose pour tous les goûts. Pendant l'entrevue, une dame se pointe dans le bureau pour demander où sont les toilettes les plus proches. Et où est la terrasse du jardin Nelson? Les conseillers cherchent à disperser les visiteurs au-delà du vieux Montréal, à les envoyer explorer d'autres quartiers. On parle du plateau Mont-Royal, de la rue Wellington, du jardin botanique, du Mont-Royal. Ici, dans le vieux Montréal, c'est l'histoire, les débuts de la ville, les chapelles, les musées, déclare François Morin. Dans les quartiers résidentiels, on retrouve les parcs, les arbres. En fin de journée, les visiteurs reviennent au bureau d'information pour des recommandations de restaurants ou de spectacles. Ils reviennent surtout s'ils sont contents de nos recommandations. Ils vont même demander le même conseiller, conclut François Morin. Des dames se présentent justement au bureau pour savoir où aller pour observer de belles perspectives sur Montréal au coucher du soleil. François Morin leur suggère le grand quai du port de Montréal à 20h, 20h15. Car oui, un conseiller doit savoir à quelle heure se couche le soleil. Et puis, un couple d'Américains entre en coup de vent pour savoir où sont les toilettes. Un peu plus tard, des Espagnols consultent une conseillère au sujet des choses à voir à l'extérieur de Montréal. Leur compréhension des distances est un peu limitée. Elles aimeraient bien aller en Gaspésie, mais aussi à Mont-Tremblant, à Sherbrooke. Un conseiller doit être en mesure de dire « muy lejos », très loin. Les préposés du Bureau de tourisme Montréal connaissent un peu moins les destinations régionales. Ils vont donc souvent rediriger les visiteurs au centre infotouristique du ministère du Tourisme du Québec, à l'esplanade tranquille, pour des renseignements plus précis. Et puis, une petite famille entre dans le Bureau de tourisme Montréal, mais pas vraiment pour s'informer. Une jeune fille saigne du nez. Une conseillère lui offre de s'asseoir et sort la trousse de premiers soins pour chercher quelques pansements absorbants. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez », fait-elle savoir. Un conseiller doit pouvoir faire preuve d'empathie. C'était « La question qui tue » au Bureau d'information touristique. Un texte de Marie Tison, paru le 6 juillet 2025 dans La Presse.